des têtes que je connais, que je vois de temps en temps, puis des visiteurs de passage que je salue, et puis tous les habitués. Voilà, de 0 à 80, à plus de 90 ans, c'est chouette. Merci Seigneur. Voilà, tabou de la croix. Voilà, ça vous fait. Je dis ça parce qu'en fait, Catherine, Raphaël et moi, on aime bien se promener l'été, visiter un peu les églises. Et puis, du coup, tableau de la croix ou tableau à la croix, moi, j'ai bien aimé parce qu'en fait, ça m'a fait. Dans ma méditation, j'ai eu l'impression, en fait, autour de la croix du Christ, parce que ça va être ça, hein, ce matin, il y avait plein de petits tableaux qui se faisaient, plein de témoins. J'en ai pris quelques-uns, quelques tableaux. Alors, on va lire le texte, et puis après, on fera des petits arrêts sur images, sur quelques personnages autour de Jésus à la croix, et qui ont inspiré la méditation de ce matin. Et puis, on réfléchira aussi à ces réactions que. Tous ces personnages autour de Jésus à la croix, et comment ça suscite en nous des réactions. Voilà. Je vous invite d'abord à regarder le texte avec moi. Donc, pour ceux qui ont une Bible, voilà, si vous préférez l'ouvrir, je la lirai en français courant. C'est dans l'évangile de Luc. Donc là, ça se situe au moment où Jésus vient d'être condamné à mort et il est en chemin vers le lieu de son supplice. Et il rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes de réactions. Donc, tandis que les soldats emmenaient Jésus, ils rencontrèrent Simon, un homme de Cyrène. Donc, Cyrène, c'est la Libye à peu près actuelle, hein. Un homme de Cyrène qui revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivaient, ainsi que des femmes. Des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit, Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car le moment approche où l'on dira, Heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, Tombez sur nous et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, Golgotha, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là, et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant, Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de lui, il y avait cette inscription, Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Jésus lui répondit, Je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Le capitaine romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, « Certainement, cet homme était innocent. » Selon les versions, « cet homme était juste. » Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors, ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je reviens un peu à ce que je disais, ces idées de tableau, de scène. Moi, j'ai repéré 4 types de personnes, 4 types de réactions. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, c'est mon découpage. En suivant le texte, donc 4 autres, comme autant de tableaux, donc j'en ai repéré 4, l'adhésion à Jésus, la lamentation, la curiosité et le rejet. Et donc, je vous inviterai à vous demander pour vous-même où est-ce que vous vous situez par rapport à ces tableaux. Premier tableau, l'adhésion. Simon de Cyrène. Alors, une drôle d'adhésion, me direz-vous. Hein, c'est l'adhésion, l'engagement sur le long terme, paradoxalement. Simon de Cyrène, donc le personnage central, hein, celui qui est requis, c'est un agriculteur qui revient des champs. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de chance. Puisqu'il se trouve requis, réquisitionné. Il s'agit de porter la partie horizontale. Alors là, contrairement à cette représentation qui est fausse, j'aurais pu choisir une image, mais je n'en ai pas trouvé. La partie verticale restait sur le mont Golgotha, enfin sur le lieu du supplice, et la partie horizontale était portée par le supplicié. Donc là, hein, il faut imaginer qu'il y a seulement la partie horizontale, quoi. Donc, les autorités romaines réquisitionnent donc ce passant, c'est normal, c'est le droit de l'occupant, du plus fort, pour porter un lourd morceau de bois et permettre au supplicié à bout de force, il faut voir que Jésus a essuyé nombre de coups de fouet, et pour lui permettre d'arriver jusqu'au lieu du crâne, Golgotha, en hébreu. Alors cet homme-là, ce Simon, sa rencontre avec Jésus a sans doute constitué le choc de sa vie. C'est vraiment vraisemblablement à l'origine de sa conversion, puisque plus loin dans la Bible, il nous est dit qu'un de ses fils sera présenté par l'apôtre Paul comme un chrétien remarquable. Donc Simon, comme je l'ai dit, est un étranger originaire de la Libye cyrénaïque, enfin, bref, c'est une colonie juive au nord de l'Afrique, et certaines de ces personnes revenaient à Jérusalem. Donc voilà un étranger dont il me plaît d'imaginer que jusqu'au bout, Dieu se sert pour porter la lumière jusqu'aux plus lointaines contrées. Lors de la Pentecôte, le don de l'Esprit, on retrouvera des croyants de Cyrène, d'où vient Simon. Un deuxième personnage, le capitaine, le chef romain, le centurion, dirions-nous. Lui, c'est l'admiration, l'étonnement, la confession. Alors, c'est un officier romain qui, voyant expirer le Fils de Dieu, dit avec force, qui dit, ce fils de Dieu, Jésus, qui dit avec force, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le centurion romain confesse que cet homme était juste, était innocent. Que veut dire « juste » ou « innocent » dans la bouche de cet homme, puisque cet homme loue Dieu. Il ne dit pas que Jésus était le Fils de Dieu, mais qu'il était un homme innocent et juste. Est-ce que ça veut dire juste qu'il ne méritait pas ce qui lui arrive? Ou est-ce que ça veut dire plus, est-ce qu'il confesse sa divinité? En tout cas, étant donné l'usage dans l'évangile de Luc du mot juste, il est vraisemblable de penser qu'il voit en lui le Messie. En tout cas, ce propos est celui d'un croyant qui glorifie Dieu, nous dit le texte. Alors, il faut bien comprendre aussi une chose. c'est que certains commentateurs voient dans le fait, quand on est sur une croix, il est impossible physiquement de parler d'une voix forte, puisque le supplicié s'asphyxie lentement. Il pousse sur ses pieds, il ne peut donc pas parler fort. Il trouve plus la force et normalement il s'étouffe. C'est comme ça que ça se passe dans ce supplice horrible. Et où Jésus puise-t-il encore l'énergie de s'écrier d'une voix forte, nous dit le texte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, si ce n'est en Dieu son Père. » D'où là, peut-être la réaction de ce Romain. Après, un autre personnage, le bon larron. Je l'ai appelé comme ça, parce que c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Alors, je mets des guillemets « bon », parce que bon, il est bon parce qu'il s'est tourné vers Jésus, mais un larron, c'est avant tout un brigand, hein. Il était sur la croix. Et ce criminel confesse aussi sa commune culpabilité avec l'autre brigand, qu'on ne voit pas sur l'image, avec l'autre brigand. Et cet autre brigand, lui, il insulte Jésus. Et celui-ci le reprend. Il sait que c'est leur dernière heure et que pour eux, c'est justice. Il sait surtout que Jésus n'a rien fait de déplacé. Il a entendu Jésus pardonner au peuple juif son inconscience. Sans doute, cela l'aura-t-il enhardi à s'adresser à Jésus. Il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Comme le fit Joseph dans le livre de la Genèse, quand il était en prison et qu'il s'est adressé à un haut fonctionnaire, « Souviens-toi de moi. » Ce haut fonctionnaire oublia Joseph, mais Jésus, lui, non. Il n'oublie pas. Lui peut promettre ce que Dieu seul promet. La vie éternelle, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand demande au futur, quand tu viendras dans ton règne, le Christ promet au présent. Ça m'a touché. Troisième tableau possible, hein, on revient un peu en arrière là, hein, ça, c'est avant la crucifixion, c'est vrai que j'aurais pu le faire dans l'autre sens. La lamentation. Donc on voit les femmes de Jérusalem qui se lamentent sur Jésus. Alors, est-ce que c'est culturel ou génétique? Ce sont des femmes qui pleurent. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit souvent que les hommes ont la larme difficile par rapport aux femmes. Parmi la multitude des badauds, le texte mentionne donc l'attitude de femmes qui suivent Jésus et sont dans l'émotion. Elles se frappent la poitrine, se lamentent. Est-ce qu'elles suivent la coutume proche-orientale des pleurs qui annoncent le deuil? Quoi qu'il en soit, elles accompagnent Jésus de façon démonstrative et voyante. Et alors, la réaction de Jésus est complètement décentrée. Il ne les invite pas à pleurer sur lui, mais sur elle-même. Alors, il dit le bois vert, il parle de bois vert et de bois sec. C'est bizarre, cette expression. Et en fait, c'est une allusion à une prophétie du prophète Ézéchiel au sujet du Messie que les Juifs vont conduire à la mort par la main des Romains, bien que Jésus était constamment soumis à l'autorité romaine. Donc en clair, Jésus, c'est le bois vert. Et le bois sec, c'est l'interprétation que je vous en fais en tout cas, c'est le peuple juif. Le bois sec, c'est le peuple juif qui, par son esprit de révolte, attirera sur lui la vengeance romaine. La prophétie du Christ rappelle, selon ce qu'il avait dit aux disciples de son vivant, les jours de malheur qui attendent la ville. Celle-ci sera occupée, Jérusalem sera assiégée, détruite, ses habitants exterminés, 40 ans plus tard environ. Et ceci par les armées romaines. La ville qui a jugé son Messie, qui a rejeté son Messie, sera jugée. La foule, un peu plus loin, pas seulement les femmes, j'ai élargi un peu le propos, se lamente aussi. Elle quitte le sauveur rejeté nous avons-nous lu, en se battant la poitrine de tristesse face à la mort d'un innocent et d'un juste, en martyr crucifié. Alors la question, c'est comment elle perçoit Jésus, cette foule ? Par la tristesse ? La pitié ? D'où extraire un exemple à imiter ? Ou alors une mort noble, mais sans portée qui sauve, sans portée salvatrice, quoi ? Un peu comme celle du philosophe Socrate qui avait bu le poison, la ciguë. On y reviendra. En tout cas, la lamentation stérile est vaine, elle est mortelle, si elle ne débouche pas sur la foi en moi, semble leur dire Jésus. La curiosité au tableau suivant. Donc on a vu l'adhésion, on a vu la lamentation, un peu la curiosité. Alors j'ai cherché un tableau qui nous montre une grande foule, j'ai du mal à en trouver finalement, mais j'en ai trouvé un. Il y avait du monde, semble-t-il. Alors, il faut voir aussi que quand on lit le texte, il y a un terme en grec qui s'appelle théoria. Et théoria en grec, ça désigne un spectacle, ça peut désigner un spectacle. Ça peut aussi être traduit par une scène. En gros, le théâtre du drame divin est en place. Et la foule, avide de sensations, ou juste curieuse, est venue en masse. Et donc le texte nous dit, c'est une grande multitude de peuples. On pourrait traduire, c'est un superlatif, quoi. Ça désigne la méga foule. Cette même foule, qui auparavant avait été manipulée par les autorités juives, avait demandé la tête de Jésus, rappelons-nous. Et il l'avait obtenue de la part du gouverneur romain, Pilate. Donc Pilate, ce gouverneur qui a cédé à la pression du peuple et des autorités. Donc, ce même peuple suit et regarde l'exécution, puis s'en retourne en se frappant la poitrine. Étrange impression, finalement. Moi, ça m'a fait ça. Il y a des impressions mêlées de gâchis, de voyeurisme peut-être même, et peut-être aussi de regret d'avoir réclamé la crucifixion. Donc, étranges sentiments mêlés. Toute la foule ne se moque pas, mais toute la foule est curieuse. Et cette tradition d'assister au supplice, on le voyait encore récemment dans les exécutions publiques, on emmenait les enfants comme au spectacle, cette tradition peut être éducative, attention, tiens-toi bien. Elle peut être distractive, elle peut aussi être un avertissement, comme je l'ai dit, mais aussi un questionnement. Et si un miracle avait lieu, j'extrapole, et si Jésus descendait de la croix, plusieurs le lui demandent, et si le Messie revenait là, maintenant, attraction de la puissance du miraculeux au double sens du mot attraction. Attirance et divertissement. Dernier tableau, et on reprendra tous ces tableaux un peu plus loin pour se les approprier. Dernier tableau, le rejet. L'opposition vient de trois côtés, des chefs, des soldats et d'un malfaiteur. Trois fois revient la même raillerie. Sauve-toi toi-même si tu es le Christ, si tu es le roi. Rien à voir avec le roi à qui nous avons ouvert les portes ce matin, par le chant qu'Agile a proposé. C'est un roi qu'on tourne en ridicule. Si tu es celui que tu prétends être, descends de la croix et nous croirons. Et le malfrat, par opportunisme, le mauvais larron, dirons-nous, le brigand, pousse la provocation et la haine jusqu'au défi ultime. Se sauver, c'est nous sauver. L'injure et le mépris, la moquerie et la parodie d'une cour royale, le roi sur une croix, sont terribles. C'est l'heure des ténèbres, de l'hostilité et de la haine. Le chanteur Renaud disait, j'écoutais beaucoup Renaud dans ma jeunesse, « Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. » Le peuple, quelque part, signe son arrêt de mort, comme je l'ai dit, en rejetant et en mettant à mort son Messie. Et Jésus a bien raison dans sa pitié et sa compassion d'appeler à 40 années de sursis, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors le texte ne dit pas qu'il demande explicitement 40 années, mais c'est historiquement ce qui s'est passé. En fait, la colère de Dieu n'aurait-elle pas pu se déchaîner à l'instant même, lui descendant de la croix? Il pouvait appeler 12 légions d'anges, nous dit un texte aussi. Je fais une petite marche arrière. Voilà, je reprends là. Pour une deuxième partie, on réfléchit à aujourd'hui et nous. Et on reprend ces quatre tableaux. Adhésion. Simon. À moi, ça m'a parlé, Simon. Il m'a parlé parce que son geste, sa présence, il n'a rien demandé. Les choses se sont imposées à lui. Et qu'en est-il parfois de nos vies bousculées, imprévisibles ou au contraire si routinières? Et la posture de cet étranger, Simon de Cyrène, parlera à ceux qui, venus d'ailleurs, c'est pas forcément un ailleurs très lointain géographiquement, mais venus d'ailleurs, géographiquement, culturellement, et qui ont rencontré le Christ en chemin. Et je pense, pour illustrer mon propos, plusieurs par vous la connaissent, à Léonil. Léonil s'est converti en chemin du Rwanda, en chemin d'exil du Rwanda, après le génocide de 1994. Et je fais un parallèle avec ce Simon parce que, revenu des champs, revenu de leurs occupations, de leur migration, c'est nous, c'est vous, frères, sœurs, amis et visiteurs, une rencontre qui s'est imposée à l'instant T, ou qui peut s'imposer à l'instant T, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin de choix, et qui a changé leur vie. Ils ont reçu, comme Simon a reçu, le fardeau de la croix, bien plus léger que le bois horizontal que porta Simon de Cyrène. Et je l'ai encore reçu cette semaine, cette parole. « Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mettez-vous à mon école, déchargez-vous de votre fardeau et prenez le mien doux et léger. » Toujours dans le domaine de l'adhésion, ce chef romain m'a parlé aussi. Il peut nous attirer, nous intriguer. Comme lui, certaines et certains d'entre nous sont venus à Dieu en le louant, en reconnaissant que tous sont pécheurs et privés de sa gloire, qu'un seul est juste, cet homme était innocent. C'est le seul innocent qui puisse accomplir de telles œuvres, pardon, guérison, cri à Dieu au-delà du possible. La croix est au-delà des champs, du champ des possibles. C'est la folle sagesse du plan éternel de Dieu. Je passe sur le bon larron. Je passe à la lamentation. Pleurer, se lamenter ou se réjouir, on a le choix. C'est une décision. Mais replacer dans son contexte, l'attitude des pleureuses, des pleureurs, n'est-elle pas la nôtre quand nous nous lamentons sans vraiment y croire? Parfois, l'horizon est bouché, nous ne voyons aucun espoir, nous oublions le Christ qui nous dit « Pleurez sur vous-même et non sur moi. Pleurez sur votre propre péché. Revenez à moi, fils, fille, et je vous accueillerai. Comme je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et je vous sauverai. Comment est-il d'ailleurs humainement concevable qu'un condamné à mort dans un tel moment, s'il n'est pas le Christ, ait la compassion et le soin du dernier appel à une ville de se détourner de son péché? Ah, parce qu'en fait, il y a deux tristesses, vous le savez ça, hein, une vraie et une fausse, selon la Bible. La fausse tristesse, c'est selon l'esprit de ce monde. Ça conduit au remords et à la mort. Ah, si j'avais su. Ah, si j'avais pu. Et on rumine. On en veut à la terre entière. On se bat la poitrine et on s'en veut bien souvent à soi-même. Archétype, dans la Bible, vous pensez à qui? Judas, j'entends par là-bas, Judas. Vous savez quelle fut sa fin ? Il s'est suicidé. Au contraire, la vraie tristesse est selon Dieu, je précise, il s'est suicidé parce qu'il avait livré Jésus, il faut le préciser. Il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Au contraire, la vraie tristesse est selon Dieu et conduit à la repentance sincère. On confesse et on se détourne de ses péchés dont Christ nous offre le pardon définitif et inconditionnel. Et ça nous était dit ce matin, on adhère, on devient disciple. On nous a lu l'exemple de ce personnage, tu en as parlé Gilles ce matin, c'est Pierre. Je passe rapidement sur l'exemple suivant, j'avance un petit peu, je retourne. J'avance sur la curiosité. Il y a une saine curiosité, celle qui pousse à s'intéresser à autrui, à s'approcher avec respect et crainte de déranger, dans le deuil ou dans la peine. On en a tous fait l'expérience. Mais celle de la croix, la curiosité qui pousse à la croix, me semble carrément malsaine. En tout cas, ça l'interroge. Excusez-moi, mais sans vouloir vous choquer, mais ça pue la mort à Golgotha. Et la foule fascinée ne peut pas détacher les yeux du spectacle tragique. Parfois, le spectaculaire peut attirer à Dieu. La fascination du miraculeux, inspiré par l'Esprit Saint, peut attirer et produire une foi solide parfois, mais aussi, je l'ai constaté, souvent superficielle. En effet, la foi vient de l'invisible et non de ce qui est visible. À l'inverse, est-ce que nous insistons, quand on parle de la croix, sur l'hémoglobine, sur les coups de fouet, en faisant ressentir la meurtrissure des clous, l'agonie de la croix? Pas vraiment. En tout cas, le dolorisme, on appelle ça le dolorisme, hein, faire accentuer sur l'aspect la douleur. Le dolorisme ne sauve pas plus que le miraculeux seul, mais l'amour du Christ seulement. Comment présentons-nous Jésus? Sur quoi insistons-nous dans notre témoignage? Sur le spectaculaire, peut-être? Le Christ offre-t-il plus qu'un modèle de souffrance dont Golgotha est la scène, les plaies le fil du spectacle et sa mise en croix le point culminant? Oui, c'est vrai, il y a du dramatique, de la tragédie, de la curiosité sans doute un peu morbide dans le drame peu ragoûtant de la mise en croix. Oui, il y a quelque chose effectivement de fascinant dans l'agonie d'un homme abandonné des hommes et de Dieu, son Père, pendu à un bois. Même l'incrédule perçoit l'anomalie du sort de ce juste. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Oui. Si la grâce de notre Dieu éclaire notre témoignage, en acte et en parole, il est l'élu, le Messie rejeté mais révélé qui nous ouvre le ciel, sens symbolique de la déchirure par le haut du voile du temple. Je rappelle que le temple est bâti, comprenait plusieurs parties, dont la dernière partie, le lieu très saint, était séparé du lieu saint par un voile qui se déchire au moment de la mise à mort du Christ. Celui-ci s'ouvre vers le lieu très saint, c'est-à-dire la présence de Dieu est ouverte à tous par la chair déchirée du Christ. Curieux signe pour les curieux, non? Comment un tel plan aurait-il pu nous venir à l'esprit? Quel amour, quelle sagesse divine! Dernier tableau, le rejet. Dans un tel contexte, le rejet et le mépris, l'ironie et l'insulte sont monnaie courante, aujourd'hui dans les médias. Se moquer de la croix, se moquer du Christ, du chrétien, c'est devenu une routine pour nombre de ceux qui s'assoient sur le bord des moqueurs, dirons-nous. Et c'est aussi cette tentation du rejet une tentation interne. Elle est plus subtile parce qu'elle glisse aussi en nous. Moi aussi, j'ai rejeté le Christ. Moi aussi, j'ai été humilié chaque fois que j'ai eu honte de sa croix, que j'ai refusé de la faire mienne, de prendre ma croix, de le suivre en portant le signe du chrétien. En fait, le courage du témoignage repose non pas sur notre propre puissance, notre propre courage naturel, mais sur la puissance de l'Esprit qui fortifie son message en nous. À l'inverse, l'apitoiement sur soi et la crainte représentent des freins puissants à l'éclat de notre témoignage. Ces freins reposent sur la peur du rejet, justement. La crainte d'être jugé comme un étrange peuple farfelu et naïf, celui des petits Christs, c'est comme ça qu'on appelait les chrétiens, des petits Christs, qui suivent un maître, un juif de 33 ans, sans situation, mort il y a aujourd'hui 2000 ans à peu près, abandonné de tous ses disciples, tout au mieux un idéaliste et un prophète. Mais nous pouvons rejeter ces faux semblants et fonder notre motivation au témoignage sur le rappel que le rejet n'est pas synonyme de destruction immédiate pour ces gens-là. Nous sommes tous encore dans le temps de la patience et de la grâce. Vous vous souvenez autrefois, on disait « nous sommes en l'an de grâce 1700, 1800, 1900 », on parlait comme ça. Parce que autrefois, peut-être nous aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce que nous faisons. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Acceptons-nous le rejet comme Jésus, en aimant comme lui, en pardonnant ceux qui le rejettent, en nous rejetant. En effet, nul disciple n'est plus grand que son maître. La patience du ressuscité prendra fin à notre mort si nous l'avons rejeté, et sinon à son retour, non plus en sauveur, mais en roi. Il viendra, nous dit le malfrat repentant, établir son règne. Et nous l'avons chanté ce matin, devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est une invitation au témoignage par ce temps de grâce. Tableau de la croix, adhésion, lamentation, curiosité, rejet, voici quelques-unes des nuances de la palette des attitudes et des émotions conjointes et entremêlées face à l'événement de la croix du Christ. Ces attitudes, ces ressentis se réactivent à différentes étapes de notre chemin, notre vie de foi. Alors pour ceux qui croient parmi nous et qui souhaitent faire résonner en eux le chemin du Seigneur, l'honnêteté et la vérité du témoignage consistera à clarifier ce qui se passe, s'est passé en nous, par notre témoignage extérieur. La doctrine, mot qui nous fait peur, hein. Voilà, la doctrine, en gros, le Christ et les Écritures. Et comme l'a rappelé Laurent aussi dimanche dernier, un témoignage extérieur, donc objectif, mais aussi un témoignage intérieur, Christ en nous. Donc, le Christ des Écritures, des témoignages, et le Christ en nous. Et parmi celles et ceux qui, parmi nous aujourd'hui, sont encore dans l'hésitation ou en recherche, ces témoins du texte nous incitent à s'interroger qui est donc cet homme, Jésus, et à répondre, nous vous y invitons, comme les soldats romains l'avaient fait auparavant, nul n'a jamais parlé comme cet homme, nul n'a jamais aimé comme lui, pour nous inviter à entamer un chemin de foi avec le Père comme lumière. Le Christ pour ami fidèle et l'Esprit Saint comme feu, souffle et vie de Dieu en nous. Amen. On a le temps de chanter un dernier chant, Gilles ? À toi nos cœurs, nos vies. On peut peut-être